Merci Jean-Jacques. Avant, vous avez un peu de temps pour préparer les questions. Je veux dire un peu, faire quelques petits commentaires et poser peut-être une question à chacun. C'est deux exposés passionnants, enfin, j'ai trouvé, qui se retrouvent hein, sur certains points et après qui sont différents sur d'autres. Donc ce sera intéressant de voir. Alors c'est vrai que dans les deux, je dirais, il y a l'essai de faire le tracé, le trajet d'une certaine croyance, enfin qui sera, comme tu disais, le début de l'analyse, l'installation du sujet supposé savoir, la croyance dans ce savoir supposé à un sujet, et pour arriver à la fin à une certitude, qui est une certitude qui d'abord, comme tu le disais, est sans sujet. C'est le sujet qui est destitué, mais il reste quand même la question du savoir. Donc, pour toi, c'était autour de cette construction et déconstruction du fantasme que ça se joue pour arriver à la fin, à ce que tu as appelé d'abord une interprétation conclusive. Ce serait intéressant de développer ça. Et sur la trace qui reste. La trace, enfin, disons, est-ce que, c'est ma question pour toi, donc c'est une sorte de synonymie entre cette trace d'une conclusion, une trace que tu décris très, très joliment ici, en suivant une idée de Lacan, la réduction du sens, l'identité de soi à soi qui s'écrit x égale x. Ce qui, enfin, quand on écoute un peu Jean-Jacques, on voit que
oui,
x égale x, enfin, oui, moi je suis moi, c'est,
voilà,
ça risque d'être un peu problématique. Donc voilà, oui, c'est autour de d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, enfin, une fois que le sujet est destitué avec le savoir ? Il reste la question du savoir, un savoir sans sujet, voilà. Et pour Jean-Jacques, enfin, je crois que c'était assez clair que la certitude qui se distingue de la certitude du sujet psychotique, c'est celle qui implique l'autre à deux niveaux, si j'ai bien compris. Enfin, du côté d'une déduction logique, c'est-à-dire la logique du 3, je dirais, comme dans l'apologue des prisonniers, et dans le dispositif analytique, il y a 3. Et puis, la vérification dans les deux temps, les deux séquences, qui incluent l'après-coup. Donc, l'autre, il y est pour quelque chose avant d'arriver à la certitude. Ma question porte sur cette idée que j'ai trouvée tout à fait remarquable à propos de l'équivoque dans l'interprétation. Est-ce que, si j'ai bien compris, l'équivoque, c'est presque ce qui lève le doute, ce qui est une façon paradoxale de...
Oui, ah oui, c'est... Oui,
parce que je pars du titre, le doute comme certitude, donc voilà, ça passe par cette formule autour de l'équivoque.
Oui, donc la question... Trace.
Sur la trace, sur voilà, la trace. Sur la trace. Qu'est-ce que...
Oui. Enfin, bon, concernant le...
Parce que la trace, c'est la trace d'une certitude, finalement. C'est comme ça.
Justement, j'ai posé cette question. J'ai dit, est-ce que...
Tu l'as posée comme question, oui.
J'ai posé cette comme question, mais j'ai dit que... Enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est plutôt du côté de... Si c'est du côté d'une certitude, c'est au fond quelque chose qui est là malgré soi. J'ai dit malgré soi.
Oui, 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 hein, tout à fait.
Voilà. Donc, et en fait, la formule mathématique de Lacan, par rapport à la réduction du symptôme, bon, faisait écho à ce que j'ai dit concernant la trace, mais en même temps, c'est une formule mathématique, donc au fond... Ça ne veut pas dire que l'autre, en fin d'analyse, je veux dire, il y a peut-être quelque chose de la chute d'un idéal, des idéaux, mais en même temps, l'autre est tout à fait là, dans le langage. Donc, il s'agit. Je veux dire, c'est une. la fin d'analyse, c'est une expérience, c'est un temps, c'est un moment. Mais pour autant, il reste une trace, mais pour autant, on est quand même pris dans ce rapport à l'autre. Même cette question du supposé savoir, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste quand même quelque chose. Il ne disparaît pas totalement comme ça. C'est par rapport à, au temps de la cure qu'il y a quelque chose qui se résout. Pour autant, après, justement, je dis qu'il y a cette trace qui reste avec laquelle qui détermine autre chose, c'est sûr, dans bien sûr un changement, ce que je disais par rapport au, enfin dans son rapport au désir, aux symptômes, mais pour autant la structure elle est quand même là, on change pas fondamentalement, donc on est quand même pris dans un rapport au grand autre. Je veux dire, le grand autre il disparaît pas, c'est pas la question, hein. il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'analyse. Qui se résout du côté de... Oui, enfin, quand je parlais d'interprétation conclusive, c'est parce que... Bon, après, c'est propre à chacun, mais disons que ça peut être une forme de fin d'analyse. C'est-à-dire une fin d'analyse qui pourrait porter sur une interprétation qui effectivement, peut faire énigme pour l'analysant. Voilà, c'est une expérience. Mais bon, ça... Ça ouvre à d'autres fins possibles. Voilà.
Hein. Pour ce qui est de l'équivoque, oui, non, l'équivoque, justement, lorsque je parlais du. Enfin, le titre un peu provocateur sert surtout à. Le doute comme certitude, c'est surtout pour rentrer un tout petit peu plus avant dans la question de. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'une certitude? Qu'est-ce que c'est qu'une certitude délirante? Et comment? Bon. Et par exemple, le fait que le sujet doute, eh bien, ça n'est pas un argument pour dire qu'il n'y a pas de certitude délirante. Bon. Donc, ça, c'est un point qui me paraît très important parce que bien des fois, on voit ce genre d'erreur. L'équivoque, justement, ne procède pas du doute. C'est ça que... C'est-à-dire le fait qu'il y ait deux équivoques entre deux signifiants, c'est pas de l'ordre du choix de l'un des deux. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? D'accord, on fait un lapsus, on dit quelque chose qu'on ne voulait pas dire, mais ce qu'on voulait dire est en quelque sorte la référence de ce qu'on a dit. Autrement dit, sans la référence en question, l'équivoque, c'est un... Alors c'est un S1, S2, bon, Lacan l'a écrit de beaucoup de façons, mais enfin, c'est toujours un rapport, une paire, il dit la paire ordonnée, par exemple. Donc, on a un ordre des signifiants, mais enfin, ici, l'équivoque entre deux, l'équivoque interprétative. Pourquoi c'est une équivoque? Quand l'interprétation dit « je ne te le fais pas dire », pourquoi ça s'appelle une équivoque? Pourquoi Lacan dit que c'est une équivoque? Parce que c'est bien parce qu'il y a ce que le sujet a dit et il y a ce qu'il voulait dire. C'est aussi bête que ça. Il y a les deux. Mais il y a les deux dans un ordre temporel tel que on reste dans l'ordre de l'affirmation. C'est ça que je pense qui est important en ce qui concerne l'interprétation. Évidemment, le flottement est introduit par le « je ne te le fais pas ». Ce n'est pas moi qui te le fais dire, ce que l'analyste ajoute, sauf que là, on n'est pas sûr qu'on va le croire. On va le croire plus ou moins. D'accord, ce n'est pas moi qui te l'ai fait dire, mais enfin, comme on sait, dans l'ordre de la supposition de savoir, disons le l'ordre de la supposition de savoir, disons, interfère sur, sur l'équivoque elle-même. C'est pour ça que elle n'est pas toujours reçue, elle n'a pas toujours les effets escomptés, même quand, quand elle est relevée correctement. Voilà.
Très bien, alors, question.
Moi, je suis un peu déçu.
Pas grave.
Je vous ai trouvé incroyablement frileux sur la question de la conviction.
Non, j'en ai pas parlé.
Pardon ?
J'en ai vraiment très peu parlé.
D'accord. Bah, si c'était dans ton titre.
Oui, bien sûr, oui, c'est vrai.
La conviction, ça vient, enfin ce terme que nous employons dans notre champ vient de la psychiatrie et c'est pas un signifiant qui marche tout seul. Cette conviction, elle est inébranlable. Or, avoir des convictions, même des convictions politiques, on voit bien aujourd'hui que c'est éminemment branlable. Bon.
Branlable.
Alors, donc, que la croyance suppose le doute, ça on le sait par cœur, que la conviction qu'il puisse y avoir, pardon, certitude, sans être complètement cinglé, tu parles d'une certitude qui fait rapport à l'autre, là j'en conviens, ça me parle. À Irène, je voudrais dire, la différence entre y croire et le croire, c'est que y croire amène à une demande, tandis que le croire n'appelle pas à une demande. Une demande d'analyse.
Oui, ou, bah oui, bon. Oui, tout à fait.
L'autre point...
Comment ?
L'autre point, c'est quand même la conviction dissociée de l'inébranlable. Qu'est-ce qu'on a à en dire ? Moi, je ne sais pas très bien, c'est un sujet que je trouve passionnant. Comment dire ? La conviction ou un certain type de certitude peut amener à trancher, faire un choix et à prendre des positions. Ce qui ne relève pas forcément de la croyance, donc que ce soit possible, mais enfin tous les militants politiques ne sont pas des cinglés.
Ça, c'est à démontrer.
Non, je ne suis pas d'accord.
Bon.
C'est pas parce qu'ils sont devenus tous psychanalystes après que...
Bon. Tous peut-être pas.
Tous peut-être pas.
Pas exagéré.
Alors, je veux dire que... Alors, il y a un truc que je ne fiche pas, mais j'étais pas là au début, donc il faut peut-être me faire... Je sais pas comment on dit à la télé, si vous avez manqué le début. Bon, Dieu, moi, je m'en fous un peu. J'y crois pas, mais forcément, il y a un doute, puisque c'est impossible à prouver. Par contre, que la mort soit un acte de foi, alors là, j'ai du mal, parce que s'il y a un truc dont je suis quasiment certain, c'est que je vais mourir.
Oui, mais pas tout à fait. C'est tout le problème. C'est ça. Là. Oui, pas tout à fait, moi, je doute.
Ah bah tiens, tu vas nous expliquer ça.
On prend encore une ou deux questions. Oui.
En fait, une question sur l'interprétation d'équivoque. Et en fait, dans l'histoire des deux signifiants, enfin des deux dires qui sont là, comme tu l'as remarqué, Jean-Jacques, En fait, je me disais que finalement, le fait de l'interprétation, c'est que le sujet est un peu surpris. C'est-à-dire que, enfin, je pense comme ça, c'est-à-dire que c'est l'essence qui ne s'y attendait pas qui émerge dans l'interprétation.
Oui.
C'est ça qui modifie un peu son dire. Enfin, au départ, c'est lui, il y avait les deux dire.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais justement, pour que ça fasse équivoque, ça suppose que l'autre sens soit toujours présent. Parce que sinon, on est à l'interprétation, disons, à l'ancienne. C'est-à-dire, ceci veut dire que. L'idée, ceci veut dire que, c'est pas l'interprétation comme équivoque au sens de Lacan, c'est ça le point. Donc.
Colette.
Oui, d'abord, je comprends très bien pourquoi on ne va pas s'intéresser à la conviction cette année, parce que on a mis certitude, croyance et conviction, parce que trois termes, c'est plus équilibré. Mais il n'y a que certitude et croyance qui intéressent, parce que Lacan en a parlé, alors que de la conviction, il a très peu parlé. Il a dit tellement de choses qu'on trouverait bien quelques phrases. Il a parlé de la conviction, mais presque rien. Donc je m'explique comme ça. Votre déception, elle était programmée.
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Alors, ben, moi, vous ne m'avez pas conduite à la certitude, je dois dire, ce soir. Finalement, on a beaucoup de certitudes. Hein. Il y a la certitude de l'acte, parce que les trois prisonniers, c'est une certitude de l'acte. On a la certitude délirante. Tu as raison, Jean-Jacques, la certitude, c'est important de rappeler que c'est connecté éventuellement au doute, à l'hésitation, et que cliniquement, c'est difficile à diagnostiquer, souvent, derrière les tergiversations. C'est vrai. Donc on a la certitude délirante, on a la certitude mathématique, quoique la mathématique est quand même appendue à quelque chose de pas certain.
Oui, mais c'est...
Et puis il y a une certitude dont tu n'as pas du tout parlé, c'est l'horrible certitude de l'angoisse. C'est la formule de Lacan. L'horrible certitude, elle est transclinique celle-là. Hein Et puis, tu as ajouté la certitude de l'interprétation équivoque. Je ne le dirais pas comme ça, en fait. Mais, parce que l'apophantique, dans l'étourdi, ce n'est pas l'apophantique d'Aristote. C'est l'apophantique. L'apophantique, chez Aristote, c'est la proposition assertive. Elle est apophantique, on dit. Alors que l'apophantique, là, si vous passez, je crois, par Heidegger, un petit détour, hein, c'est une affirmation, mais d'une proposition qui n'est pas vérifiable. Enfin. Donc, parler de la certitude, qu'elle vise la certitude, l'interprétation, oui, elle la vise, mais elle ne la véhicule pas. Elle ne la véhicule pas elle-même. Bon, enfin, ce serait une un débat peut-être. Je voudrais quand même rappeler le joint de l'énigme à la certitude que Lacan a beaucoup développé pour la psychose, justement. Le paragraphe où il définit la certitude délirante le plus sûrement connecte à une énigme par rapport à la signification. Et que cette énigme devient... Comme il dit, signification de signification,
oui, oui.
Mais c'est la certitude qui vise. Donc c'est important de rappeler quand même le joint à l'énigme, parce que sinon c'est comme le doute. On croit que ça exclut on croit que ça exclut la certitude, mais non, c'est un passage direct. Le trou dans la signification fait énigme et ça saute à la certitude.
Oui, oui, tu as raison, parce que je n'ai pas effectivement repris, disons, le chemin que Lacan décrit très bien, qui mène à la certitude. Je suis d'accord. C'est le chemin qui mène à ça. Là, j'ai pris la chose à partir de...
C'est pour causer.
Excusez-moi.
Je veux juste terminer en vous citant. Il faudra vous y reporter, et moi aussi, pour le trouver textuellement. Il y a très, très jolie petite phrase de Lacan dans l'éthique sur la croyance. C'est dans les passages où il commente la chose, et quelques pages après, c'est là qu'il évoque l'unglauben de la psychose. Et alors il dit... la croyance, c'est moins que savoir, mais c'est quand même pas ne pas savoir du tout. C'est savoir un peu, mais ne pas être sûr. C'est très joli comme phénoménologie, au fond, de la croyance. Il y a tout ce passage dans l'éthique, il essaye d'expliquer ce que c'est que la chose. Est-ce que c'est que ne pas croire la chose? Est-ce que c'est qu'il croit, etc. La réponse y reporte.
Allez-y.
Oui, je voulais juste dire quelque chose par rapport à l'énigme dans la psychose. Moi, je pensais à la perplexité. C'est un peu... on peut mettre sur le même plan.
C'est un temps logique qu'on ne voit pas toujours, c'est-à-dire qu'avant la conviction, il y a un flottement qu'on peut appeler la perplexité, le doute, l'énigme. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une patiente qui me raconte qu'elle était dans une manif, elle arrive à l'Assemblée nationale et elle se dit à un moment « c'est quand même pas possible, je ne peux pas être le Christ ». Je vous dis... Bon, la chose n'est pas tout à fait emballée, on peut peut-être faire encore un truc. Tu parles.
Non, c'est bien. C'est exactement pour ça que la formule même.
Je veux dire, il ne faisait pas de doute, il était psychotique, mais je veux dire qu'avant que la conviction s'installe définitivement, je me disais, il y a peut-être un petit chemin où on peut s'insérer et faire quelque chose.
Je pense que le Christ il finit en croix, c'est quand même un peu triste. Donc après tout, c'est peut-être pas plus mal d'essayer d'éviter la chose.
Quand on s'occupe de la conviction, en tant que thérapeute, psychanalyste ou je ne sais trop quoi, ce qu'on cherche, c'est pas à faire flamber le délire, c'est à trouver la faille ou introduire un minimum de perplexité afin que la question de l'autre, persécuteur, puisse être un peu calmé. Bon. Donc je me dis qu'au début de la psychose, quand ça se déploie en termes d'énigmes, il y a peut-être un petit coup à faire. Sauf que je n'ai pas réussi.
Cette fois-là.
Je n'en sais rien, je sais pas.
Vous voulez dire quelque chose par rapport à la question? Il y a d'autres questions?
Oui, bonsoir, merci. C'est sur le chatouillis du X égale X, qui est invoqué du côté de la névrose dans le texte de Lacan, je crois, et dans votre intervention, et puis qui se rapprocherait quand même de quelque chose de l'ordre de la certitude. Ça me rappelait cette sorte d'idée que la fin d'une analyse pourrait ressembler à cette thèse de devenir un peu psychotique, en quelque sorte.
Vous avez obtenu la perplexité.
En acte, en acte.
Non, il dit pas ça. Hein. Il dit pas ça. C'est d'une certaine façon, c'est Freud qui le dit dans l'article sur les constructions en analyse, n'est-ce pas, qui évoque quasiment des phénomènes élémentaires à la fin de la cure. Donc. Enfin, c'est à la fin de la cure freudienne. Et c'est pas pour tous, non, c'est de temps en temps, etc. Bon, bref, c'est un article intéressant où effectivement il est question de. Après l'interprétation. C'est tout un débat sur justement le statut même de l'interprétation. L'interprétation, la construction, etc. C'est tout un débat qui est. Comment dire, qui est traité par Lacan, mais très sotto voce, hein, très, très dessous. Il le traite, ce débat-là. Bon. Oui. Oui, c'est-à-dire l'idée du timing de la certitude délirante, c'est effectivement une question importante, c'est-à-dire quelle est la chute. Ici, Lacan est très clair, c'est-à-dire ce qui se voit, c'est pas tellement justement, c'est pas la forclusion du nom du père, ça se voit pas. Ce qui se voit, les phénomènes qui apparaissent sont dans l'imaginaire. Ils sont dans un défaut d'imaginaire et dans une refabrication de l'imaginaire. Bien, c'est sa thèse de départ. Donc, c'est pour ça que la fonction même du doute surgit de façon assez privilégiée et que, en effet, il y a lieu de pouvoir se repérer notamment sur quoi porte le doute. Et donc, en effet, bien distinguer entre le doute comme certitude psychotique et le doute obsessionnel, que là j'ai évoqué très rapidement, mais qui n'est pas formé de la même façon, puisque il porte sur un acte qui est supposé devoir arriver alors qu'il a déjà été. Bon, en gros, je simplifie. Et donc, le doute sur la chose qui devrait être faite concerne quelque chose qui est déjà tranché. Bon, je schématise ici un petit peu, mais c'est pour bien montrer la différence entre.
Pour ne pas savoir.
Oui. Alors que dans le doute dont j'ai parlé comme certitude, c'est-à-dire ce doute qui justement signe la certitude, et dans ce cas il se signe d'ailleurs lui-même, c'est vraiment une alternative dans laquelle l'un des deux termes de l'alternative est impossible. Alors on ne peut pas plus, et justement il n'est pas plus possible pour Napoléon d'être Napoléon quand il est à Sainte-Hélène, c'est trop tard.
C'est un peu la métaphore du garçon de café qui s'est pas donné la métaphore. Enfin, le garçon de café qui se prend pour un garçon de café.
Oui, mais Lacan insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que se prendre pour. Ou se poser la question de savoir si on est, etc., toutes ces formules marquent une conviction inébranlable pour aller dans ton sens.
Mais pendant que tu parlais, moi j'ai eu un doute. Le souci de Freud que la psychanalyse ne soit pas une paranoïa dirigée.
Alors, je ne l'ai pas évoqué ici, mais en effet, j'espère que ce sera un des prolongements. C'est un prolongement nécessaire dans le débat ici sur la certitude, parce qu'en effet l'idée de la psychanalyse comme paranoïa dirigée justement implique cette certitude de l'interprétation.
Mais alors là aussi j'ai un doute. La question de l'équivoque sur l'interprétation, elle me semble avoir une visée, je dirais, presque asymptotique. Parce que, de temps en temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens qu'il faut quand même un petit peu remarquer.
Mais ça n'a pas de rapport, ça.
Ben si, puisque Lacan dit, au fond, plutôt que de donner de la signification et du sens, autant dire une énormité.
Donc, mais ça, il n'a jamais dit ça.
Si, c'est dans Je te retrouverai le truc, ou les relations d'objets ou l'angoisse.
Il faut regarder le texte.
Pour une fois, je me souviens d'un truc, page 511, verset 35.
Moi je reviens et je pose Irène quand même sur cette affaire de l'autre, de la destitution du sujet, disons, et du sort qu'on fait à l'autre à la fin de l'analyse. Parce que c'est comme quand on a utilisé de l'autre, enfin il a été barré, il y a la castration de l'autre, et puis quoi ? Je me souviens qu'avec Colette, quand vous êtes venu à Cluj en octobre, on a parlé du baptême du transfert, vous avez évoqué précisément cet aspect-là de, d'accord, il y a destitution du sujet, mais la question du savoir reste.
Ah oui.
C'est, et, mais un savoir avec quel autre ? C'est-à-dire, c'est... Il y a des formules, par exemple, quand Lacan dit l'analyse se fait la dupe. La dupe de l'inconscient, enfin, de l'inconscient de l'autre, enfin, c'est pour instaurer la croyance en l'inconscient, chez l'autre, pas chez lui, d'une certaine manière.
Oui, moi, il me semble que, enfin, dans ce que j'ai évoqué du trajet d'analyse et puis de cette fin possible, Au fond, la question, quand je parle de la question du fantasme, l'analysant n'est pas conscient de tout ça. C'est-à-dire que, à la fin, ce qui peut se jouer, c'est que quand je parle de ce moment énigmatique concernant une interprétation conclusive, qui est quelque chose de tout à fait spécifique, hein, je ne dis pas du tout qu'on peut généraliser. Mais c'est quelque chose qui lui fait entrevoir, effectivement, cette faille dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est, enfin, quand je dis cette faille dans l'autre, c'est-à-dire que c'est au fond, il y a quelque chose qui revient à l'analysant. Là où il n'était pas conscient qu'il avait placé un autre, il n'était pas conscient du tout de ça, lui revient qu'il y a quelque chose de lui-même. Et au fond, c'est ça dont résulte. Alors, je ne sais pas si je ne saurais pas forcément trop l'expliquer, mais enfin, ce qui en résulte, c'est que ça peut mettre un terme, justement, à la cure, parce que finalement, ça peut mettre un terme à une demande qui était adressée à un autre qu'on faisait consister. Mais finalement, si cette part de l'autre revient à l'analysant, finalement, voilà, c'est pas logiquement, finalement, il y a quelque chose de logique là, mais qui se fait, je dirais, malgré l'analysant. Il y a quelque chose d'expérience, quand je dis malgré soi, c'est qu'au fond, ça se joue comme ça, et, mais ça ne veut pas dire qu'après l'analyse, voilà, il y a quand même. C'est un moment, c'est-à-dire que c'est une expérience, et quand je dis qu'il en reste une trace, c'est que c'est vrai que cette trace, c'est quelque chose qui est singulier, enfin, qui marque l'analysant, sa singularité, et au fond, ça, d'un côté, ça a fragilisé cet autre, je dirais, il y a quelque chose de cet autre supposé qui a été atteint, donc fragilisé, et en même temps, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a, alors moi, je ne sais pas si on peut dire certitude, moi, quand je dis quelque chose qui s'est passé malgré soi, c'est que, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé en creux. Mais il y a eu quand même cette expérience énigmatique aussi, parce que quand je dis énigmatique, c'est que finalement, Lacan dit la vérité, j'ai dit la formule, la vérité s'oublie, c'est-à-dire que immédiatement, enfin, aussitôt vécu, aussitôt oublié, je dirais, aussitôt refoulé. Donc ça fait trace, il y a quelque chose qui s'est produit, et puis ça a mis un terme à l'analyse. Après, voilà, il s'agit de faire avec ça. Et...
C'était un bon terme ou pas?
Qu'est-ce que tu appelles un bon terme? Une
terminaison, un truc convenable.
Mais c'est quoi convenable? C'est un terme.
Non, il ne faut quand même pas charrier, bon on terme, passe l'affaire.
Bah, non, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Alors,
je veux dire, quand tu parles de terme...
Un terme, c'est une fin.
C'est un terme avant-terme ou c'est un terme comme une fin logique?
Bah, là, tout à l'heure, j'ai parlé de fin logique. J'ai dit, logiquement, il y a quelque chose qui s'est produit. J'ai dit malgré soi, parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé, qui a été maîtrisé du tout. C'est quelque chose qui s'est produit. Voilà. Oui, il y a une logique, effectivement. Voilà.
Oui.
Oui, c'est juste pour un petit éclaircissement. Jean-Jacques Roff, vous avez dit cette phrase à propos de la lettre volée. Le hasard produit des séquences déterminées.
Oh, mais c'est... Là, lisez la lettre volée, là, c'est pas... C'est... Il fait des séquences qui sont tirées au hasard et il démontre qu'il y a une régularité dans les séquences produites. Donc en somme, il n'y a pas de vrai hasard, quoi. C'est ça le... disons, en gros, c'est... Sauf que c'est une démonstration assez compliquée, telle qu'elle figure dans le, à la fin de la lettre volée. Vous pouvez la lire.
Malgré... Les gens ne voulaient pas le parler.
Bon.
Alors... Dernière série de questions. Série, enfin, petite série. Ou si vous voulez ajouter quelque chose.
Bah non, moi je...
Encore plus.
Ça va. Ça va, c'est bien.
Bon, très bien, mais on remercie. Annoncer juste que les prochaines réunions de nos séminaires, c'est le 12 janvier, le séminaire d'école avec Colette Solaire et Sol Apparition.
Qui s'excuse, elle ne pourra pas être là. Sol Apparition s'excuse, elle ne pourra pas être là.
Avec Colette Solaire, alors le 12 janvier. Et le séminaire Charles Lacanien, c'est-à-dire la continuation de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le 25 janvier avec Claire Montgobert et Marc Spos.
Oui, oui.